René Bazin, Les Noëlés, première partie. Chapitre 1. Comme ils sont tristes ces soirs d'octobre. Il y a dans l'air une moiteur qui fait mourir les choses. Les feuilles tombent comme lasses de vivre sans le moindre vent qui les chasse. Des troupes d'oiseaux reviennent au nid. Et par le chemin qui monte, un chemin creux de la Vendée angevine, que les orages nettoient et qu'émondent les chèvres, un jeune gars rentre à la ferme, à cheval sur la huasse. Elle n'est plus belle, la huasse, avec ses poils blancs ébouriffés, son ventre énorme pelé par l'attelage, sa crinière en éventail qui lui donne l'air d'un chat-huant. Elle va de son pas résigné de serviteur usé à la peine, traînant sur les cailloux les traits pendants de son collier, tandis que, par devant, son poulain gambade comme un petit chevreuil blond et fou. Son cavalier ne la presse pas. Ils sont, elle et lui, presque du même âge. Depuis 15 ans qu'il est au monde, elle l'a si souvent porté sur son dos, de cette même allure maternelle que rien n'étonne. Maintenant, c'est sa compagne de labour. Toute la journée, ils ont hercé ensemble dans les terres basses. La chaleur était grande, les mottes étaient dures. Tous deux sont là. Il la laisse donc aller, la bonne bête, aussi doucement qu'elle veut, les yeux mi-clos, et lui, tranquille, dépassant la haie de toute sa tête baignée de lumière, il regarde cette campagne superbe dont il est l'enfant. À sa gauche, la pente roide du coteau, lèvres tordant ses rives plantées d'aunes autour d'un mamelon boisé, des prairies au-delà, puis l'autre coteau qui remonte, couronné comme une aigrette, par le château blanc du Vigneau. À droite, au contraire, les champs s'élèvent en courbes régulières, par longues bandes de cultures diverses, et dont les tons se fondent à mesure que la lumière décroît. Pierre connaît leur maître, celui de ces chaumes où filent 2 rangs de pommiers, celui de ces grands choux où des perdrix rappellent, et de ce guéret d'où monte la laine des terres fraîchement remuées. En apprenti qui commence à juger les choses, il songe que la métairie paternelle est mieux cultivée, mieux fumée, reconnaissable entre toutes, à la hardiesse de ses labours, à la beauté de ses moissons. Et ce n'est pas étonnant. Les voisins sont tous plus ou moins gênés, ils travaillent pour d'autres, écrasés de leur lourd fermage, tandis que le père... Voici justement le premier champ de la genévière. L'horizon s'élargit démesurément. On voit à présent, par l'ouverture de la vallée, la succession lointaine des collines jusqu'à Gesté, jusqu'à Saint-Philbert-en-Mauges, des clochers fins sur le ciel, des futaies comme des brumes violettes. Oh, tous ces petits villages aux toits de tuiles gaufrées qu'anime un dernier rayon de jour. Des bruits se croisent, appels des coqs dans les fermes et des merles dans les fossés, roulements de chariots, jappements des chiens qu'on détache, voix qui partent des maisons vers les hommes attardés au loin, un pas qui sonne on ne sait où et que bientôt l'herbe étouffe. Et les étoiles s'allument là-haut, d'où descend par degrés sur la terre de Vendée le calme immense de la nuit. Parvenu au point culminant du chemin et prêt de descendre vers la genévière, Pierre Noëlé arrête un instant la huasse et se dresse, les yeux tournés à droite, vers une masse sombre comme une tache noire dans le crépuscule. C'est le château de la Landehue dans l'ombre de ses grands arbres. Un point ardent brille à l'une des fenêtres. « Ils sont arrivés !» pense le jeune gars. Ses yeux s'animent, il sourit. Pourquoi ? Une joie d'enfant, des souvenirs qui lui reviennent. Ça a été si triste tout l'été de voir cette maison fermée, sans maître, sans vie. Pour la première fois, M. Hubert Lobrier a passé la belle saison loin de la Landehue. Dès lors, plus de trains de voitures et d'invités, plus de chasses, plus de fanfare, plus rien. Mais les hôtes du château sont revenus et la preuve en est sûre. Pierre Noëlé est content et, talonnant la huasse, il se met pour s'annoncer à siffler une chanson du pays. Au même moment, M. Lobrier entrait dans la cour de la Genivière, formée par trois bâtiments. La grange le long du chemin, puis, perpendiculaire à cette première construction et séparée d'elle par un large passage, l'habitation du fermier d'un côté, l'étable et l'écurie de l'autre. Du dernier côté, rien ne fermait la vue. C'étaient des cimes d'arbres descendant le ravin de l'Èvre et, par-dessus, la vallée ouverte. Le châtelain aimait le site de la Genivière, métairie qui avait jadis appartenu à la famille de sa femme, et il aimait surtout le métayer, un des hommes les meilleurs et les plus riches du pays. Il allongea son visage maigre et fin, encadré de favoris gris, au-dessus de la demi-porte d'une pièce, tout à l'extrémité de la maison. « Bonjour, métayère » dit-il. La métayère, ayant achevé de mettre le couvert, s'apprêtait à tremper la soupe. Un large pain rond appuyé sur la hanche, elle coupait d'un geste régulier des tranches de pain qui s'amoncelaient au creux de la soupière. La flambée de l'âtre dansante au gré du vent, qui venait un peu de partout, éclairait en travers la paysanne, de taille moyenne, sèche et nerveuse, son visage régulier, mais vieilli avant le temps, ses yeux très noirs où vivait une âme maternelle qu'on sentait prompte à s'alarmer, puis la table et les bancs de cerisiers cirés, l'échelle au pain suspendue aux solives, et, de chaque côté de la porte donnant accès dans la pièce voisine, deux lits à quatre quenouilles, garnis, suivant l'ancienne mode, de rideaux de futaine grise et de couvertures jaunes. Quand Périne Noëlé vit s'avancer le châtelain, elle posa le pain sur la table et releva prestement un coin de son tablier dont l'endroit n'était pas sans doute immaculé. « Bonjour, monsieur Hubert, » dit-elle, « vous voilà donc de retour ?»« Bien tard, n'est-ce pas ? Nous arrivons de Suisse et d'Italie, un voyage de 3 mois dont je me serais dispensé volontiers. Car vous savez que j'aime avant tout ce pays-ci, ma Landehue, mes bois et ma paroisse du fief Sauvin. Mais que voulez-vous, mes filles m'ont entraîné. Quand les enfants grandissent, on ne leur résiste plus si bien. Pourquoi, par exemple ? Oui, oui, je sais, métayère. Chez vous, c'est l'ancien régime, l'autorité paternelle des jours passés, tandis que moi, je suis moderne, je gâte un peu mes filles. Croiriez-vous que Madeleine ne veut plus se contenter de son poney et de son petit panier ? Elle me demande un cheval de chasse. Ah, les enfants ! Une bien belle demoiselle que vous avez là, monsieur Hubert. Vous trouvez ? Dit M. Lobrier avec un sourire flatté. Comment va le métayer ? La figure de Périne Nollet s'épanouit. Tenez, dit-elle en regardant vers la porte, c'est lui. L'homme, apercevant M. Lobrier, s'était arrêté sur le seuil. Sa haute taille occupait presque toute l'ouverture de la porte. Il avait la tête forte, le visage carré et sans barbe, les lèvres minces, les yeux enfoncés sous les buissons de sourcils, une physionomie grave et un peu rude. Ses cheveux, courts sur le front, retombaient en mèches roulées sur le col de la veste. 45 ans de service au soleil ne l'avaient ni décharné ni voûté, et rien qu'à le voir s'avancer vers son hôte, le regard droit, et lui serrer la main avec une familiarité respectueuse, on eût deviné l'honnête homme de race ancienne et maître chez lui. Derrière le père, les enfants entrèrent. Une petite, d'abord, Antoinette, coiffée d'un bonnet noir d'où sortait une mèche dorée et qui vient tendre sa joue d'un air innocent à M. Lobrier. Pierre, le cavalier de la huasse. Jacques, son cadet, pâle et fluet, aux grands yeux doux comme des pervenches. enfin, l'aînée de tous, Marie, une fille brune, déjà sérieuse, qui s'en alla se ranger près de sa mère en rabattant ses manches qu'elle avait relevées. Monsieur Lobrier promena ses regards autour de lui et les fixant sur Marie. « 17 ans, n'est-ce pas, Métayer ?»«
Oui, monsieur Hubert. »
« Ça te vieillit, mon bonhomme ?»«
Ça nous vieillit tous, » répondit le paysan, dont les lèvres hâlées se plissèrent d'un demi-sourire.
« Et mon filleul, » reprit le châtelain en désignant Pierre, « a-t-il grandi ? Quel âge a-t-il à présent ?»«
15 ans. »«
Est-ce vrai, mon garçon, ce qu'on m'a raconté ? Tu fais du latin avec l'abbé ?»
La tête baissée et l'air mécontent, Pierre regardait le bout de ses sabots.
« Réponds donc, mon Noëlé !» dit la métayère, dont un peu de fierté comme une flamme illumina le visage. « Puisque monsieur Hubert te parle, réponds donc !»
Le jeune gars, sans lever la tête, leva à demi les yeux, le temps de montrer qu'ils étaient plus clairs et plus durs que ceux du père, et d'un ton où perçait la vanité blessée,
« Je fais même du grec, » dit-il.
« Voyez-vous cela, même du grec. L'an prochain, tu seras au collège de Beaupréau, je parie. »«
Puisque c'est son idée, » répondit le père.
« J'en suis ravi, » dit monsieur Lobrier. « Lis, travaille, instruis-toi, mon Pierre. Intelligent comme tu l'es, tu auras bientôt rattrapé les autres. Et vous tous, bon appétit. « Je n'ai pas voulu passer ma première journée à la Landehue sans dire bonjour à la génivière. Voilà qui est fait, je me sauve. »
Et tandis que M. Lobrier se retirait, salué par un concert de voix jeunes, disant « Bonsoir, M. Hubert. Adieu, M. Hubert. À vous revoir, M. Hubert. » Il se pencha vers le métayer qui l'accompagnait.
« Toi, mon bonhomme, dit-il, je te félicite. » Un fils prêtre, un autre laboureur, l'image de notre Vendée. Il est gentil, ton Pierre.
Je ne dis pas non, un peu trop fiérot seulement. Ça lui passera, j'espère, puisque le bon Dieu le veut pour lui. Mais Jacques sera plus facile, monsieur Hubert.
Vraiment ?
Plus chérissant pour la mère, et vaillant au travail avec ça comme un poulain. Il n'arrête qu'à bout de force.
Un vrai métayer, alors?
Tout à fait.
Tu es un heureux homme, Julien. Ne te plains pas.
Le paysan était arrivé au bord du chemin qui longe la grange. Il serra la main de M. Lobrier et répondit, de son ton tranquille, un peu traînant,
« Je ne me plains pas non plus, allez !»
Puis il revint vers la maison, où tout était bruit de voix et de rires d'enfants et de sabots claquant sur la terre battue. Un valet de ferme rentra derrière lui. Les hommes allaient reprendre leur cuillère attachée au mur par une bride de cuir. Ils s'assirent autour de la soupe fumante. Les femmes mangèrent debout, ça et là, suivant l'usage, causant peu, écoutant ce que disaient les hommes du travail de la journée et de celui du lendemain, par phrases courtes, sentencieuses, coupées de silence qu'imposait la faim vorace. Un air de prospérité marquait cette ferme et cette famille. Les parents étaient sains, les enfants d'allègres venus. Le domestique lui-même, robuste et sérieux, attestait le point d'honneur du maître. Le plat de terre brune, plein de lard aux choux, le saladier à fleurs bleues, que surmontait un dôme de laitue fraîche, n'avait pas une écornure. Tous les meubles luisaient. Dans les étables, d'où arrivait par moments le roulement des chaînes à travers le bois des crèches, il y avait les animaux les mieux nourris de la contrée, des vaches laitières dont le beurre faisait prime sur le marché de Beaupréau, 6 bœufs, superbes à voir quand ils labouraient ensemble, la vieille huasse et son poulain, et des porcs, et des bandes de poules et de canards, sans parler du bouc, animal solennel, réputé indispensable à la santé des troupeaux. Pour faire vivre tout ce monde, bêtes et gens,
25 hectares de terre cultivée suivant une tradition un peu routinière, mais avec beaucoup de soin. Car Julien Noëlé est chez lui à la Genivière. C'est son bien, sa propriété, le fruit des efforts de plusieurs générations d'ancêtres. Oh, tous ces disparus, tous ces passants obscurs de la vie qui dorment à présent leur dernier sommeil dans les cimetières voisins, comme ils l'avaient souhaité l'indépendance de la propriété, comme pour l'acquérir ils avaient travaillé, peiné, épargné. De ferme en ferme, dans leur lent pèlerinage à travers les Mauges, sous des maîtres différents, une même pensée les avait suivis. Quand ils rentraient le soir, l'échine tordue par la fatigue, au coin de leur feu, dans la demi-obscurité qui leur économisait une chandelle de résine, ils voyaient, par-delà la mort qu'ils sentaient venir, une maison blanche, éclairée, une maison à soie, où quelque arrière petit-fils régnerait en souverain. Leur misère se consolait avec la joie de cet autre en qui se réaliserait l'ambition de toute une race. Ils mouraient, l'épargne grandissait aux mains de l'aîné, plus ou moins lentement, selon les années et le hasard des récoltes, jamais touchée, jamais engagée. Un mariage avait tout à coup doublé l'avoir, et, avec l'argent caché dans un pot de grès, avec le prix d'une petite closerie qu'il possédait sur la paroisse de Villeneuve, avec la dot de sa femme, le père de Julien Noëlé avait acheté la métairie de la Genivière, vendue dans un moment de gêne par les anciens propriétaires du domaine de la Landehue. Il vivait donc, cet héritier d'un si opiniâtre labeur, considéré pour sa fortune, la plus grosse qu'il y eut dans le canton parmi les paysans, plus encore pour son caractère. En lui se retrouvait l'esprit d'ordre qui avait fait la force de l'espèce, le même souci d'acquérir, avec cette libéralité en plus que donne l'aisance honnêtement acquise, et jusqu'à cette belle figure où s'épanouissait un sourire de tranquille confiance quand il regardait les siens. Il aimait la terre d'un amour profond et soigneux, il faisait l'aumône, il croyait. Oui, le rêve des vieux était bien réalisé, et ce rêve habitait la maison blanche de la Genivière, sur le coteau du fief Sauvin, devant les mêmes horizons qu'ils avaient vus, sous le même ciel large ouvert.